C'est notre responsabilité de notre génération actuelle de transmettre ce réseau à la prochaine génération dans un état aussi bon qu'on l'a reçu. Le réseau ferré en Suisse, ça date d'avant 1900.
Les CFF vous souhaitent la bienvenue et un agréable voyage dans leur podcast.
En cette période difficile, lorsque l'on consulte son horaire, de ne pas voir ce petit icône rouge marqué « Travaux ». Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de chantiers sur les lignes CFF? À quoi servent-ils? Comment on fait pour qu'ils aient le moins d'effet sur la clientèle? Bref, pour en savoir davantage sur le bon équilibre entre transport et travaux, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des CFF sur le monde ferroviaire et ses coulisses. Je m'appelle Jean-Philippe Schmitt et j'ai le plaisir d'accueillir David Fadbert, directeur des CFF pour la Suisse romande. David Fadbert, bonjour.
Bonjour.
Tu es le directeur régional des CFF pour la Suisse romande, bienvenue. Je te propose de poser ton casque de travaux, parce qu'on a commencé cette émission avec des casques orange. On va les poser le temps de faire ce petit podcast ensemble, de cette discussion. Et puis, on va mettre notre casque de podcast. David Fadbert, on a beaucoup de clientes et de clients qui ont l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de travaux sur les lignes des CFF. C'est une impression ou c'est vrai?
Alors, on n'a jamais eu autant de travaux, c'est certain. C'est cyclique. Hein. Tous les 30-40 ans, par exemple, pour la voie ferrée, ben, il faut la renouveler. Mais on n'a jamais eu autant de travaux. Mais ce qui est intéressant de constater également, on n'a jamais eu une ponctualité qui était aussi haute dans l'histoire des CFF. Et on n'a jamais roulé autant de trains sur notre réseau. Et qui dit plus de trains, dit aussi plus de besoins d'entretien.
Le nombre de travaux qu'on fait, c'est gigantesque. Hein. Je crois que c'est des milliers de chantiers qu'on a actuellement en Suisse romande et en Suisse.
Oui, alors c'est des chiffres qui m'impressionnent et qui font presque peur parfois. En Suisse romande, pendant une année, c'est 40 000 interventions sur le réseau. Donc ça va de la petite coupure de quelques minutes en deux trains, que le client ne verra rien du tout, aux grosses interruptions de plusieurs mois où on coupe complètement la ligne. Par rapport aux impacts sur les clients, il faut imaginer que sur ces 40 000, il y en a seulement 400 qui sont vraiment visibles pour le client sur la chaîne de transport où on va mettre des bus en place, où certains trains circulent avec un horaire différent de l'horaire habituel.
Oui, c'est assez impressionnant comme chiffre. C'est vrai qu'on ne les voit pas en fin de compte. C'est ça, et c'est d'ailleurs le but en fait, de tout le travail des CFF et de la planification, j'imagine. Quand on dit travaux, il y a plusieurs types de travaux. En fait, hein. Je crois qu'il y a des travaux, on fait de l'entretien, il y a d'autres, on fait du développement. Tu peux un petit peu nous expliquer qu'est-ce qu'on a comme travaux actuellement sur notre réseau?
Alors, il y a trois grands types de chantiers. Il y a les travaux d'entretien qui permettent de faire durer la vie de la voie ou d'autres éléments du chemin de fer, où on va, quand un élément vieillit, le changer. Par exemple, un petit tronçon de voie de quelques mètres, ou bien on va rééquilibrer le ballast, ce genre de petites interventions. Après, on a le renouvellement. Ça, c'est sur des grands cycles. Hein. Je le disais en entrée, la voie ferrée, c'est tous les 30-40 ans qu'il faut la renouveler. Donc là, on enlève tout. Et on remet du neuf. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est plutôt les travaux de développement du réseau, où on va rajouter des fonctionnalités ou le summum, rajouter des nouvelles lignes sur le réseau ferré.
D'accord, donc c'est un petit peu comme moi dans ma cuisine. Si toutes les semaines, en fait, je nettoie ma cuisine, je l'entretiens. Parfois, je dois changer le lave-vaisselle, donc là, je fais du renouvellement. Et puis des fois, quand tout devient un peu petit, j'agrandis ma cuisine et là, je fais du développement. C'est un peu la même chose, mais au niveau du chemin de fer, en fin de compte.
C'est exactement ça.
Est-ce qu'il faut vraiment les faire, tous ces travaux? On se dit, mais pourquoi ils les font tous maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas attendre un petit peu? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas tous ces travaux maintenant, si on attend quelques années?
Alors, c'est clair qu'on a toujours tenter hein, de repousser l'échéance parce qu'on a souvent des impacts après pour les clients et ça que nous comme cheminots ça nous gêne toujours et c'est pas ce qu'on a envie de faire. On est une entreprise de mobilité avant tout et pas une entreprise de génie civil ou de travaux, mais néanmoins on doit le faire. C'est notre responsabilité de notre génération actuelle de transmettre ce réseau à la prochaine génération dans un état aussi bon qu'on l'a reçu. Le réseau ferré en Suisse, ça date d'avant 1900. Et jusqu'à présent, chaque génération a fait son travail, a transmis ce réseau. On a un réseau où il n'y a quasiment pas de lignes qui ont été fermées en Suisse, qu'on compare à d'autres pays en Europe. Donc on doit le faire. Et si on ne le fait pas, c'est très rapidement visible pour les clients aussi. parce qu'on va avoir des problèmes de fiabilité avec des éléments qui vont se casser ou qui ne vont pas fonctionner correctement, ou on doit poser des ralentissements de vitesse pour garantir la sécurité. Et à ce moment-là, les chaînes de transport ne fonctionnent plus non plus en termes de correspondance.
Ouais, donc si effectivement, si on n'entretient pas, à terme, on devrait réduire les vitesses, fermer des lignes, passer dans cette espèce de cercle vicieux et infernal, quoi. Donc c'est vraiment maintenir le réseau dans un état le meilleur possible.
Dans le meilleur état, plus que possible, en fait, dans l'état qui est nécessaire pour faire rouler tous les trains, transporter les milliers de clients qu'on a par jour, c'est absolument nécessaire.
On a un peu l'impression qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, les travaux se faisaient surtout la nuit et que de jour, il n'y avait à peu près presque pas de travaux. Est-ce qu'on n'arrive plus à faire tous ces travaux la nuit ? Comment ça se passe maintenant, en fait ?
Alors, il y a toujours énormément de travaux qui se déroulent la nuit. Mais il faut imaginer qu'on roule aussi toujours plus tard avec nos trains la nuit, généralement jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, des fois tout au long de la nuit, on roule encore avec des trains. Ça réduit fortement les fenêtres disponibles pour l'entretien la nuit. Donc, suivant les types de travaux, on n'a plus assez de temps à disposition. Il faut imaginer les travaux de renouvellement de la voie. Il faut venir avec une machine de chantier, il faut l'amener sur le chantier. Il faut ensuite la mettre en service, la préparer. On peut travailler un certain temps. Et puis après, il faut de nouveau la mettre en service et l'acheminer dehors du chantier pour que le matin, les trains puissent de nouveau rouler. C'est des choses qui se passent vraiment dans les coulisses et qui ne sont pas visibles par nos clients. Et si les fenêtres sont trop courtes, on va arriver à des rendements qui sont très très faibles. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire 18 mètres, 36 mètres par nuit de renouvellement, ce qui est un non-sens en termes d'efficacité. Donc parfois, il vaut mieux couper sur des longues durées et puis pouvoir engager ces machines de manière beaucoup plus productive.
D'accord, on parle souvent de renouveler, d'entretenir les voies, on pense toujours aux rails. J'ai demandé à Maria Jaurès ce que c'était en fait que d'entretenir des rails. Qu'est-ce qu'il y avait exactement là derrière ? Puis j'ai aussi posé la question de savoir en fait qui sont ces personnages un peu bizarres qu'on voit le long des voies, qui sont un peu les mains dans les poches et on a toujours un peu l'impression qu'ils font rien. Je laisse écouter Maria. Maria Jaurès, tu es planificatrice de travaux d'entretien au CFF. On est juste ici à Renan, juste à côté des voies. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, entretenir ou rénover des voies ? Parce qu'on voit, il y a juste du rail, mais ce n'est pas seulement le rail. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
Effectivement, le rail, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est tout ce qui est en-dessus. Ben, on voit qu'il y a des traverses, on voit qu'il y a du ballast, on voit qu'il y a plein de matériel d'attache, qu'il y a plein de composants qui sont reliés au rail. Et notre travail de tous les jours est de maintenir le rail, que ce soit de changement d'un bout de rail, changement des traverses. On va rajouter du ballast, on va changer du matériel d'attache, on va aussi changer un cœur.
Un cœur, donc comme en chirurgie, quoi.
Non, effectivement, c'est aussi une sorte de chirurgie. On va changer ce qui est un appareil de voie, c'est-à-dire l'aiguillage qui va faire dévier le train d'un rail à l'autre, d'une voie à l'autre.
Et le cœur, en fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui bouge, c'est ce qui fait en fait vivre l'aiguillage, puisque c'est ça qui va faire tourner les voies d'un côté ou de l'autre. C'est bien ça, hein ?
Effectivement, c'est ce qui va faire tourner avec des différents composants, selon à gauche, à droite.
Si on revient un petit peu au début, donc on a le rail, ça on voit un peu, tout le monde voit ce que c'est là que vont les roues, mais effectivement, pour tenir le rail, on a des traverses, c'est ça, hein ?
Effectivement, on a des traverses, on a des crapauds, c'est un mot très sympa. Il y a des boulons, il y a des tire-fonds, il y a des semelles en plastique pour stabiliser un petit peu puis faire le contact entre le matériel d'attache et la traverse. Donc oui, il n'y a pas que le rail, il y a tout ce qui maintient le rail attaché à la traverse.
Le rail, c'est juste, hein, il n'est pas fixé directement sur le sol.
Non, le rail est fixé à la traverse. Et ce qui va stabiliser notre rail, c'est le ballast. Et régulièrement, on doit faire ce qu'on appelle du ballastage. Du ballastage, c'est on va venir avec une machine qui est vraiment conçue pour faire ça. Il va soulever gentiment un petit peu le rail. Et puis, on va injecter du ballast qu'on va compresser. Et puis, ceci va donner une stabilité au rail. Et puis, ça va être un confort supplémentaire aussi pour nos voyageurs. Quand ils vont prendre le train, ça va moins secouer.
peut dire, si on prend un petit peu une image, donc le rail, il est posé sur ce ballast, qui est une sorte de coussin, quelque part. Et puis, j'ai l'impression qu'une des opérations, ça veut dire, en fait, lever un peu le rail et puis un peu taper dans le coussin pour lui redonner de l'air pour qu'il gonfle. C'est un petit peu ça, l'idée.
Effectivement, c'est comme quand on se lève le matin et on fait notre lit, puis on donne un petit coup à notre oreiller pour le remettre, pour le gonfler. Bah, c'est ce qu'on fait.
Donc là, vraiment, le travail des gens qui font de l'entretien, c'est vraiment de bichonner le rail, de faire qu'effectivement, il soit toujours comme neuf et le plus agréable possible au passage du train. Il y a, quand on prend le train, généralement, puis qu'on se promène, et puis qu'il y a des ralentissements, parce que souvent, il y a des ralentissements quand il y a un chantier, on voit des personnages, on a l'impression qu'ils font rien. Il y a des gens qui sont orange, ils ont un casque blanc, et ils regardent passer le train un peu les mains dans les poches, mais en fait, ils font pas vraiment rien. Au contraire, ils sont indispensables à ce chantier. C'est qui ces gens avec les casques blancs sur le chantier?
Alors, ça peut être le sentinelle ou le protecteur, selon l'emplacement où il se trouve. La sentinelle est toujours à une certaine distance du lieu du chantier pour voir venir les trains avec assez d'avance, informer le protecteur qui est avec les collaborateurs aussi avec un casque blanc pour leur dire de dégager la voie.
Bah, comme on le voit, c'est pas entretenir des rails, c'est du heavy metal, c'est du métal lourd, hein, c'est pas juste policher un tout petit peu les rails, c'est beaucoup d'autres choses. Je sais pas si tu sais, David, mais on a des drôles d'animaux qui circulent sur nos voies. On a des grizzlies, des boas, des pumas. J'ai demandé à Maria Jaurès de nous expliquer un peu ce que c'est que ces animaux un peu bizarres qui circulent sur notre réseau pendant les travaux. Maria Jaurès, j'ai entendu dire que sur les voies, sur les rails, on trouvait des drôles d'animaux. On trouvait des boas, des condors, des grizzlies, des pumas. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, ce que fait un boa sur les voies?
Effectivement, un boa, c'est une machine qu'on utilise pour changer les rails. On change les rails, les deux fils des rails, hein, gauche et droite. C'est une machine qui va lever le vieux rail et puis qui va pousser le nouveau. C'est une machine qui nous fait avancer plus vite parce qu'il y a une soudure qui est faite selon l'avancement. On ne doit pas tous les 118 mètres s'arrêter, faire une soudure. C'est une soudure qui est faite par induction. Et puis, on fait la première soudure le soir et la dernière. Et les 800-900 mètres qu'on peut faire d'une nuit complète en train de changer le rail, on ne s'arrête pas, on avance et puis on gagne beaucoup de temps.
Et un boa, c'est très long, c'est comme un serpent, hein. C'est un train qui est très très long, je crois.
Ah, bien sûr, un boa, selon les wagons qu'il a derrière, les nombres des rails qu'on va changer, les compositions, ça peut faire 800 mètres.
Quoi sert le puma? On va encore donner un deuxième exemple.
Le puma va faire un petit peu, vulgairement, la même chose que le boa, mais en même temps, il va aussi pouvoir nous changer les traverses.
D'accord, et puis un petit animal dont tu as parlé tout à l'heure, c'est le crapaud. C'est quoi le crapaud sur les rails?
Ah, les crapauds, c'est une pièce en métal un peu qui a une forme, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle crapaud, mais c'est ce qu'on va mettre entre la semelle et le boulon pour faire une stabilité de ces trois pièces, pour les serrer un peu.
David Fadberg, l'ICFF, ce n'est pas seulement une entreprise de travaux, c'est d'abord une entreprise de transport. Avec tous ces travaux, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on imagine des solutions pour les clients et pour transporter malgré tout tous nos clients?
Alors, j'aimerais juste revenir sur la capsule qu'on a entendue. C'est vrai que souvent, on m'interpelle aussi, puis on me dit « Ah, je suis passé, j'ai pris le train, puis je passe à côté d'un chantier. » Il y a tout le monde qui avait les mains dans les poches et qui ne travaillait pas. Vous ne bossez pas sur vos chantiers. C'est un peu compliqué, en fait, à expliquer, mais chaque fois que le train passe, nos collaborateurs doivent se retirer des voies et attendre que le train passe pour pouvoir ensuite travailler. Donc, ils travaillent entre les trains. Et c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer. C'est dire, oui, quand vous passez avec le train, justement, on doit s'enlever. Mais tout le reste du temps, on travaille. Donc, on est très productif sur les chantiers.
Oui, c'est vraiment les mesures de sécurité de base, hein, puisque un train, généralement, qui passe à 140, risque de devoir passer à 100, à 80 à l'heure à côté, ou même 40 km/h suivant le chantier pour assurer la sécurité. C'est juste. Et alors, nos clients, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec eux pendant ces chantiers? Comment est-ce qu'on s'en occupe?
Alors, en règle générale, quand on planifie un chantier, on commence déjà par analyser la ligne, combien de clients on a sur cette ligne. Quelles sont les destinations, d'où viennent nos clients, pour réfléchir en termes de chaîne de transport. Et puis après, en fonction de cette analyse de départ et des chantiers à réaliser, on va choisir, est-ce qu'on fait ça de nuit? Est-ce qu'on fait ça deux jours avec une voie qui est interdite? Est-ce qu'on fait ça deux jours avec deux voies interdites? Ou même, avec beaucoup de chance, pour des petites interventions, est-ce qu'on le fait entre les trains? Et c'est chaque fois cette réflexion qui se fait pour trouver un juste équilibre entre l'impact sur nos clients et les travaux qu'on doit réaliser, et surtout la quantité de travaux qu'on doit réaliser pour ne pas prendre du retard sur l'entretien et le renouvellement du réseau.
J'ai vu que ce qui se passait beaucoup ces temps, et ça se passe souvent en été, c'est des interruptions d'une ligne pendant un week-end, plusieurs week-ends, voire pendant quelques semaines. Quels sont les avantages de ces interruptions-là pour nous, constructeurs et entretenants, et pour aussi les clients?
Alors, du point de vue de l'organisation du chantier, comme je disais avant, quand on engage des grosses machines, ça permet d'être nettement plus productif, d'avoir qu'une installation et qu'une désinstallation de la machine à la fin de l'interruption sur une longue durée. Ça permet également d'engager d'autres moyens, parfois des moyens routiers, plutôt que des moyens purement ferroviaires pour exécuter les travaux, ce qui permet d'être plus efficace. Puis surtout quand on coupe une ligne complète, on peut travailler à différents endroits sur cette ligne et réaliser différents types de travaux simultanément. Plutôt que de revenir plusieurs fois embêter nos clients, on peut en une seule fois réaliser énormément d'activités. Et puis après, on espère toujours laisser quelques années tranquilles nos clients sur cette ligne en question. Et puis pour les clients, l'avantage justement, c'est de pouvoir bénéficier d'une seule interruption. On met un concept de substitution qui marche bien et qui permet d'assurer les chaînes de transport, parfois avec un peu de perte de temps de parcours, entre 15 et 30 minutes de rallongement de temps de parcours. Mais par contre, c'est très concentré. Et on sait que c'est durant cette période. Souvent, on essaie de faire ça en été, globalement, on a quand même plus de clients qui sont en vacances ou qui peut-être profitent plus du télétravail. On compte environ 20% de moins de clients pendant les vacances d'été, ce qui permet vraiment de minimiser cet impact sur leur déplacement quotidien.
C'est vrai que quand il y a de grandes interruptions pour les clients, savoir que déjà à l'avance, ils auront un horaire planifié, prévu par un bus de remplacement à tel moment, à telle heure, ça peut être aussi très pratique et je pense que pour eux, c'est beaucoup plus agréable que des changements tous les jours, par exemple, ou quelque chose comme
tout
ça.
Tout à fait. On l'a vu sur l'interruption que l'on a fait l'été dernier entre Fribourg et Berne. Pendant 8 semaines, on a coupé cette ligne principale avec plus de 30 000 clients journaliers. Le fait d'avoir communiqué suffisamment en amont le fait que l'on coupait la ligne, d'avoir mis un système de bus avec une haute cadence et des bus confortables pour rouler ensuite entre Fribourg et Berne. On a eu très très peu de retours négatifs. Ça a permis à toute notre clientèle de s'organiser et de choisir elle-même le moyen dont elle voulait se déplacer entre les îles ou de renoncer des villes, pardon, et, ou de renoncer à leur déplacement, par exemple en pratiquant plus de télétravail ou en covoiturant avec d'autres pendulaires.
David Faber, on a de plus en plus de travaux. Quand il y a des travaux, tu l'as bien expliqué, on doit ralentir les trains pour passer à côté du chantier parce qu'il y a des raisons, il y a la sécurité. Comment est-ce qu'on fait ralentir les trains et puis quand même garantir l'horaire à nos clients? Il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans.
Alors ça, c'est dans la conception de l'horaire où on rajoute un petit peu d'air, on appelle ça de la réserve, hein, entre les arrêts, ce qui permet d'absorber d'éventuels chantiers. Et quand il n'y a pas de chantier, ça nous permet également d'absorber des aléas d'exploitation. Il se passe, on parlait des animaux avant, il peut y avoir des animaux au bord des voies, alors pas ceux que l'on engage sur nos chantiers. Il peut y avoir une vache qui s'échappe de son enclos, et là on va rouler moins vite également. Et ça permet dans ce genre de cas de figure de quand même tenir l'horaire et de garantir les correspondances dans la gare suivante. Donc on travaille vraiment là-dessus. On a fait un exercice en 2025 en Suisse romande où on a rajouté du temps dans le trafic grande ligne pour pouvoir permettre sur les tronçons du style Lausanne-Fribourg ou Lausanne-Genève ou Lausanne-Bienne de pouvoir avoir deux chantiers simultanément avec un ralentissement. Et puis que l'horaire continue de fonctionner même dans ce genre de cas de figure.
Donc c'est vraiment cet horaire 25 dont on a beaucoup parlé. Et là derrière, c'est d'abord aussi pouvoir assurer un horaire et en fait, faut qu'on garantir l'horaire qu'on propose aux clients tout en pouvant faire davantage de travaux en comptant le temps de ralentissement, etc. C'est ça un petit peu.
Ah, clairement, le but, c'est de devoir changer moins souvent l'horaire de base. Et sur ces, je vous parlais de 40 000 interventions hein, par année sur le réseau roman, de pouvoir en absorber un maximum sans devoir faire un concept où on modifie l'offre.
D'accord. On n'a pas encore parlé d'une chose, c'est qu'on doit entretenir, renouveler, mais aussi développer le réseau. C'est vrai qu'on a aussi une gare de Lausanne qui est en plein travaux, une gare de Genève qui commencera, des travaux d'extension du réseau. Et ça, c'est aussi évidemment quelque chose dont il faut tenir compte. Ça va se développer encore ces prochaines années. ces prochaines années, on n'aura plus de travaux, bien ça va continuer, ça va s'amplifier. Et qu'est-ce qu'on fait pour, quelles sont les pistes pour continuer à transporter encore plus de monde et faire en même temps davantage de travaux?
Alors, ce qu'on va faire, c'est continuer à travailler sur la densification des travaux durant une interruption. Ça veut dire que lorsque l'on interrompt une ligne, c'est de trouver tout ce qu'il y a à faire, que ce soit de l'entretien, du renouvellement ou du développement, de le faire en même temps. Mais c'est un sacré défi de faire ces travaux au bon moment. Imaginez si le renouvellement, vous le faites 10 ans plus tôt, on nous reprochera assez rapidement d'avoir changé des installations, pas neuves, mais qui sont en tout cas pas amorties financièrement, qui n'étaient pas en fin de vie. Donc c'est toujours un équilibre assez fin pour trouver le bon moment pour faire les travaux et pour grouper le maximum de chantiers au sein de cet intervalle. À noter que, et ça c'est vraiment une spécialité suisse, hein, j'ai envie de dire, vous parlez des travaux de développement, on parle de la gare de Lausanne, de la gare de Genève, qui a déjà commencé, hein, les travaux préparatoires sont en cours, on essaie toujours de maintenir le trafic. Donc la gare de Lausanne, oui, ce sera visible pour nos clients, parce que les cheminements seront différents, il y aura des certaines restrictions dans les passages sous-voies ou sur les quais, mais en fin de compte, l'offre nominale va continuer de circuler, et ça c'est un énorme exploit. Ça me rend toujours très très fier et je peux que remercier tous mes collègues qui rendent ça possible. C'est un petit miracle à chaque fois de réaliser tous ces travaux.
Ouais, je crois que c'est vraiment un équilibre incroyable. Et ça me fait toujours penser à ma cuisine, en fin de compte. Au lieu de simplement changer et ragrandir ma cuisine, en fait, je vais partir 2 semaines à l'hôtel et en profiter pour faire tout le reste de la maison et tout ce qu'il faut faire. C'est un petit peu ça, je crois. Que,
alors nous, on ne part jamais à l'hôtel. On va continuer ouais. à faire à manger tous les jours. Malgré les travaux de transformation.
On ne s'arrête jamais, les travaux continueront, mais on va continuer, en fin de compte, à transporter toujours nos clients. On est à la fois une entreprise de travaux, mais d'abord et avant tout une entreprise de transport. Ben, je crois qu'on en sait un petit peu plus sur les travaux, sur cette nécessité de trouver cet équilibre. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Merci David Fadbert d'avoir participé. On va faire une pause pendant l'été pour les podcasts, mais on se retrouvera probablement plus tard. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez davantage d'informations sur notre portail CFF News. Et puis, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poser à podcast@cff.ch. David, on va quitter nos casques de podcast et mettre nos casques orange et se remettre au travail. Merci d'avoir participé.
À bientôt, merci.
Ce podcast est arrivé à son terme. Nous vous prions de bien vouloir descendre. Au revoir et à bientôt.